Il y a en fait dans les œuvres de jeunesse tout un parcours qui traverse l'histoire de l'art et qui vise à l'appréhension de ce qu'est une œuvre d'art, de ce qu'est un tableau. On a dans un premier temps des linogravures figuratives, puis ensuite apparaît des textes en rapport avec des images, comme dans ces albums de jeunesse, Fontaine ou Sisyphe, où on voit une influence importante de l'existentialisme et une mise en rapport du texte et de l'image. Un des éléments qui marque la rupture entre l'œuvre de jeunesse et l'œuvre de maturité, c'est la découverte d'un monochrome bleu de Barnett Newman qui s'appelle Day Before One. Et toute l'œuvre de Rémy Tsaugh est basée sur la quête de la compréhension de la perception d'une œuvre d'art. Et en fait, on retrouve tout un tas de prémices de cette réflexion dans l'œuvre de jeunesse, à travers ses albums, mais aussi à travers ses linogravures figuratives ou d'autres œuvres qui sont présentées dans l'ouvrage.
Parlez-nous de cette expérience qu'il a eue au musée à Bâle devant cette œuvre.
Alors, il était face à un énorme monochrome bleu. Il y a un moment d'incompréhension par rapport à un grand aplat bleu et il se demande comment comprendre un tableau comme celui-là, qu'est-ce qu'il représente et surtout comment le percevoir. Et c'est à ce moment-là qu'il a compris que la perception ne passait pas seulement par le regard, mais passait aussi par le corps. Pour voir un tableau comme celui-là, il faut pour relever la tête, pour l'appréhender dans toute sa grandeur. Et ensuite, toute l'œuvre de maturité est basée sur cette réflexion de l'appréhension du regardeur, comme il l'appelle, par rapport à un tableau.
Alors, ces œuvres de jeunesse, elles n'étaient pas vraiment montrées par Rémy Tsaugh lui-même. Est-ce qu'il aurait voulu qu'on en parle autant aujourd'hui ?
C'est difficile à dire parce qu'il y a tout un tas d'œuvres qui étaient conservées ce qui devait être sa fondation, qui n'a pas eu le temps de mettre en place. Donc, on imagine que certaines de ces œuvres auraient été montrées dans le cadre de sa fondation, mais d'autres ne l'étaient pas du tout. Et avait été complètement oublié, et lui-même les considérait comme une œuvre d'étudiant dans ce processus justement d'apprentissage de ce qu'est un tableau. Et petit à petit, en fait, en tant que chercheur, on se rend compte de l'importance en fait de ces textes pour comprendre en fait l'intégralité de l'œuvre, même si lui-même ne voulait pas les montrer. Et c'est toute la question de l'après Rémy Tsaugh. C'est pour ça qu'après Rémy Tsaugh, on s'intéresse à avant Rémy Tsaugh. C'est au fond de comprendre son œuvre dans son intégralité, même si lui-même ne souhaitait pas forcément la montrer.
Et cet ouvrage que vous publiez, il s'adresse plutôt à des spécialistes de l'artiste ?
Pas seulement, en fait. C'est aussi l'idée de réunir Rémy Tsaugh et son canton, de réunir cet artiste avec le terreau qui l'a vu naître, de faire connaître très largement son œuvre aux Jurassiens.
Alors justement, dans le livre, il y a une partie sur le rapport entre Rémy Tsaugh et son canton. Est-ce que ça a été compliqué ?
Oui, c'est une relation qui est tout à fait ambivalente. Rémy Tsaugh avait un rapport compliqué, pour ne pas dire conflictuel parfois avec le canton. Néanmoins, on peut nuancer un peu ça parce que il faisait partie d'un milieu intellectuel jurassien et l'ouvrage le montre, il a reçu plusieurs prix, mais ensuite il est parti et quelque part il a un peu oublié sa région et sa région l'a oublié également. Donc, et on voit qu'à la fin de sa vie, il y avait une espèce de course au retour où par sa fondation, par les projets d'auditorium et le logo du canton d'ailleurs qui fait une citation indirecte à l'œuvre de Rémy Tsaugh, on voit que celui-ci aurait souhaité se réintégrer dans le paysage culturel jurassien.